présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Tard, il a fini de manger, boit un café. Un homme, grand, mince, des cheveux grisonnants, la tête un peu osseuse, lunettes métal doré, très distingué, costume marine. Il va près de lui et lui dit « Pourrais-je m'asseoir ?»« Oui, monsieur. » L'homme s'assoit et lui dit « Vous allez à Paris ?»« Oui. » »« Bien. Il faut absolument que cette affaire se termine le plus vite possible. » Le jeune homme lui demande « Vous êtes ?» L'homme lui dit « Je fais partie de l'écran, comme vous. Je disais que la chose doit se faire le plus vite possible et se faire oublier. Le Vatican est dans tous ses états. Le monde a les yeux rivés sur la France et a peur qu'elle détienne l'arme absolue. Remarquez, ils n'ont pas tort. Alors vous devez faire votre mission le plus tôt possible et le mieux possible. Bien, monsieur. » Vous voulez un café ? L'homme lui dit. Non, vous savez ce que vous avez à faire à Paris. Oui, c'est très simple. Bien, je vous laisse. Retournez dans votre compartiment et n'en sortez pas. On peut vous voir du mal. L'homme se lève. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et l'homme sort du wagon restaurant. Le jeune homme termine son café et sort. Il va directement à son wagon. S'assoit et ne bouge plus jusqu'à Paris. quart de l'îlot. Une fois arrivé à Paris, il est sorti de la gare, prend un taxi, donne une adresse. Le taxi s'est arrêté devant le magasin d'antiquité. Il paye et entre dans le magasin. Un homme petit châtain à moustache dans les 50 ans, costume gris foncé.
Vous désirez, monsieur ?
Je suis venu vous proposer une affaire.
Une affaire ?
Oui.
Quelle affaire ?
Un petit objet de famille. Une femme, du fond du magasin, vient vers eux. Elle est grande, mince, cheveux gris dans les 60 ans, habillée d'un manteau gris à col de fourrure argentée. Elle leur dit,
« J'aime beaucoup les affaires de famille, qu'est-ce que c'est ?»
Le vendeur lui dit,
« C'est rien, madame vendeuse, rien du tout. »«
Mais je veux voir. » »«
Monsieur, veut me proposer quelque chose d'insignifiant. »
Elle lui dit, « On ne sait jamais, monsieur Duvivier, que monsieur montre son affaire. »
Le jeune homme lui dit, « C'est-à-dire que c'est...
Elle... Quoi ? Un vieux four à charbon pour le pain. »
Elle lui dit, « Cela doit être intéressant. Vous habitez où ? » ?»«
En Bourgogne. »
« Donnez votre adresse. »
Le vendeur lui dit, « Vous permettez, c'est à moi que monsieur s'est adressé en premier, et c'est à moi à qui doit donner l'adresse. »
Elle lui dit,
« Bon, je vous laisse, puisque vous voulez faire votre pourcentage. »
Elle sort du magasin. Une fois qu'elle est sortie, le vendeur lui dit,
« Alors ?»
Le jeune homme sort de sa poche le coffret. Le vendeur le prend et lui dit,
« C'est ça ? Alors le monde se trouve là-dedans ? La prochaine fois que vous venez me livrer quelque chose, faites en sorte de m'apporter quelque chose pour le magasin. Si j'ai un client, c'est mieux. Vous voulez boire quelque chose ?
Oui, merci. Le trajet était long et chaud.
Allons dans l'arrière-boutique. »
Et le vendeur met le petit coffret dans sa poche. Le jeune le suit. Le vendeur le mène à l'arrière-boutique, qui est une pièce moitié bureau, moitié salon. C'est sombre, sale, fait de bric-à-brac.
Asseyez-vous.
Il la fait asseoir dans un fauteuil qui est en face du bureau, vieux fauteuil de cuir marron foncé et défoncé.
C'est dans le vieux fauteuil, comme celui-là, qui a pris les formes du corps que l'on est bien. C'est peut-être joli une chaise Louis XV, mais on y est mal assis. C'est raide.
L'homme va vers un placard.
L'ouvre, se trouve des boissons. Qu'est-ce que vous voulez? Bourbon, whisky, cantis, un bourbon. Vous avez raison.
Il prend une bouteille, deux verres. Il se met à son bureau. Un verre au jeune homme.
À votre réussite.
Il trinque. L'homme lui demande:
qu'allez-vous faire maintenant?
Je ne sais pas, les temps sont durs. L'homme lui dit:
ça, vous pouvez le dire que les temps sont durs. Il n'y a plus rien, plus rien. C'est pas comme avant, où en France il y avait le Concorde, l'atome, l'armée, les produits industriels, voitures, chimie, etc., etc. Maintenant, c'est mort. Elle ne fait plus que des musées. Et dans les musées, on y met du vieux, on y déverse des poubelles. Je passe plus de temps à mon magasin qu'à autre chose. Heureusement qu'il y a cette histoire de Dieu. Vous, vous y croyez en Dieu?
Jeune homme lui dit: non.
Alors vous avez transporté cette chose qui se dit être Dieu sans y croire.
Je lui dis: j'obéis aux ordres. Si on m'avait fait transporter le diable, ce serait la même chose. Mais je dois avouer, c'est que j'ai été intrigué. À un moment, j'ai eu envie de regarder ce qu'il contenait.
Pourquoi ne pas l'avoir fait?
J'ai eu peur, je me suis dit qu'une lumière ou quelque chose dans ce genre allait sortir de la boîte et que tout le monde allait savoir ce que c'était. Je ne sais pas du tout ce que c'est que l'ADN.
L'homme lui dit: moi non plus. D'ailleurs, je crois que celui qui tire les ficelles et qui trace notre avenir ne le sait pas plus que nous.
Le jeune homme demande: alors pourquoi s'est embarqué dans une histoire pareille?
Je ne sais pas. Peut-être était-ce dans l'air du temps. Les journaux en parlaient constamment. Il paraît que c'est l'avenir, la baguette magique qui va solutionner tous nos problèmes.
Le jeune homme lui demande: vous y croyez, vous?
D'après ce que je sais, ça peut nous aider ou nous tuer. C'est à double tranchant, comme l'atome. L'homme doit être sage.
Le jeune homme lui dit: et quelle fin a donné cet homme à cette histoire?
Une fin mouvementée et pleine de surprises.
Le jeune se lève et lui dit: quant à moi, je ne le verrai pas, parce que j'ai fini mon rôle ici.
L'homme se lève. Peut-être nous reverrons-nous,
qui sait, dans une autre aventure.
Je vous accompagne.
Et il leur accompagne jusqu'à la sortie de son magasin.
Alors au revoir. Vous nous quittez? Vous quittez Paris de suite?
Oui, je dois aller au lac de Montrion.
Ah, ce fameux lac. Alors bon voyage.
Merci. Et le jeune homme le quitte. Le vieux monsieur a fermé la porte de son magasin.
Et l'homme retourne à l'arrière-boutique. Au fond du bureau se trouve une porte. Elle donne dans l'allée. Il va au fond de l'allée. Ouvre une porte. Il donne au cave. Il descend les escaliers. Des escaliers longe un couloir de la cave. Et ouvre une porte de cave.
Là se trouve, ligoté à terre, un homme dans les 40 ans, grand, maigre, brun. L'homme se penche et lui enlève le bandeau qui est sur la bouche.
C'est fait. Le mater lui dit. Il s'est rendu compte de rien?
Non.
Le mater lui dit.
Ce n'est pas très correct de m'avoir mis dans cette cave comme ça.
C'est la guerre.
Peut-être bien, mais moi je vous aurais pas mis dans cette cave. Vous avez le coffre?
Oui.
Qu'allez-vous en faire?
Le remettre à une personne.
L'homme en bas, à terre, lui dit
« Nous le remettons tous à une personne. Qu'on le remette à celui-là ou à celui-ci, quelle importance. Je me demande pourquoi nous nous battons, puisque nous faisons la même chose tous les deux. »
L'homme debout lui dit « C'est à cause d'une simple chose. Nous les remettons à des hommes différents. Et cette différence est essentielle, tellement essentielle qu'elle peut coûter la vie à un de nous. »
C'est comme la religion. On croit tous en Dieu, mais ce n'est pas le même. Alors on se bat comme ça.
Ce qui compte, ce n'est pas que d'y croire, mais le maître, le nom de cette croyance.
Bon, au lieu de philosopher comme ça, vous feriez mieux de me libérer.
L'homme lui demande, vous serez chevaleresque?
Je le suis, je le jure. Vous me connaissez, ça fait des années que nous nous rencontrons. Lorsque je perds, je perds.
L'homme se baisse et le défait. Ils se relèvent tous deux. L'antiquaire demande
« Qu'allez-vous faire ?»«
Rien. Je vais faire mon rapport. Mais nos relations à tous deux font jaser. On nous appelle les Dupont. »
L'antiquaire lui dit
« Nous donnons l'exemple aux autres. Nos rencontres se terminent pas par un bain de sang. » Et qu'allez-vous faire?
Je vais la remettre. Remettre le coffret. Et après, je me reposerai un peu. Je pars à la campagne. Venez, je vous raccompagne.
Et il le raccompagne jusqu'à la sortie de l'allée. Suivre le couloir de la cave. Sort de la corde. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Et l'antiquaire retourne à son magasin.
Il garde dans sa poche ce petit coffret. C'est la seule façon de ne pas le perdre et ou de se faire prendre. Le soir, il ferme son magasin et prend sa voiture. Il se dirige vers Versailles. Là, il a arrêté sa voiture devant une petite maison au fond d'un parc. La maison est une petite maison du 18e siècle, de 2 étages, pas très grande. Il sort de voiture et sonne au portail. Une voix à l'interphone demande
« Oui, qui est-ce ?»«
C'est le livreur. »«
Bien. »
Le déclic et le portail s'ouvre. Il entre et va vers la maison en suivant un petit chemin de gravier. Le petit parc a une pelouse et quelques arbres.
Arrivé devant la porte d'entrée, il sonne. La porte s'ouvre. Apparaît un homme, grand, sec, n'abandonne chevelure blanche. Il a dans les 60 ans, porte un costume beige.
Entrez, cher ami.
L'antiquaire entre.
Il se trouve dans un hall en demi-cercle tout blanc avec un magnifique escalier et une rampe en pierre moulue.
Alors, vous avez la chose ?
Oui.
Il sort le coffret de sa poche et le lui donne.
Merci.
Il regarde bien le coffret et dit :
J'ai entre les mains la chose la plus précieuse au monde. Je suis extrêmement ému. Et vous ?
Moi, rien. Je ne crois pas.
L'homme aux ses épaules lui dit : Pourtant, vous avez touché, vous avez vu.
L'antiquaire lui dit,
j'ai vu quoi? Une boîte.
L'homme lui dit, bon, passons. Vous voulez boire quelque chose?
Oui, je veux bien.
Venez.
L'antiquaire le suit et l'homme le mène à son salon.
Entrez. Il entre. Grande pièce, Louis XV. Asseyez-vous. Il va s'asseoir sur une chaise que lui a montré l'homme. Puis l'homme va mettre le coffre dans la commode. Et demande, qu'est-ce que vous voulez boire?
Un bonbon.
Bien. Et l'homme va chercher à une table qui sert de bar, une bouteille et 2 verres. Et dépose sur la table basse où se trouve l'homme et fait le service. Puis il s'assoit en face de l'antiquaire.
L'antiquaire lui demande
« Qu'allez-vous faire de cette chose ?»«
Je vais l'analyser et essayer de reconstituer le Christ en mettant son ADN dans le corps d'un homme. C'est un peu l'éternel retour. »
Dieu s'est fait homme, il est redevenu Dieu, et maintenant je vais le refaire homme. » L'antiquaire lui demande,
« Vous allez prendre quel homme pour y mettre Dieu ?»«
J'ai pensé à un enfant, comme au tout début. Cet enfant, je l'ai trouvé, c'est un dénommé Nicolas, un gentil petit garçon de 14 ans, enfin un adolescent plutôt de 14 ans. Il est dans ma clinique et a un ennui cardiaque.
Comment allez-vous faire pour le lui mettre ?
Il suffit d'une piqûre. Disons, personne ne le verra.
Donc Dieu sera perdu dans la foule et la mère ne le saura même pas.
Pas tout à fait. Je le suivrai de près. Personne ne pourra lui faire du mal. Il sera sacré, l'antiquaire lui dit.
Et personne ne le saura ?
L'homme lui dit. Dieu agit comme il se doit, et s'il veut se faire connaître, il le fera.
Et ses parents ?
Le père est un de mes amis, médecin. L'antiquaire lui dit.
Je comprends pas. Connaître qui nous donne les ordres accepte de se donner comme ça à une personne privée.
L'homme lui dit. Il faut bien que les choses se fassent et que l'on continue sa route. Nous vivons un grand mystère jusque cela va nous mener. Il y a bien un plan, mais le plan est très large. Beaucoup de choses peuvent arriver. L'antiquaire lui dit.
Comme celle de se donner la mort.
Il sort un revolver.
Et l'antiquaire a tiré sur l'homme, les balles en plein corps. L'homme s'est affaissé sur sa chaise. L'antiquaire se lève.
Il va chercher dans la commode le coffret. Puis, il sort de la maison.
Il a pris sa voiture et va au siège de Genetou. Va à la cogne, au rez-de-chaussée du siège.
Il demande,
j'ai rendez-vous avec Monsieur Danfort.
Quel nom ?
Monsieur Durand.
Bien, je vais voir, monsieur.
Elle regarde sur son ordinateur.
Je ne vois pas. Mais je vais téléphoner. Elle prend son téléphone.
Allô, Monsieur Danfort ? Il y a à l'accueil Monsieur Durand.
Bien.
Très bien, Monsieur Danfort. Monsieur Durand vous attend. Ascenseur Père A, 10e étage, porte droite.
Il y va. Au 10e étage, il tombe sur la secrétaire, une grande blonde en tailleur rouge.
Monsieur Durand, Monsieur Danfort vous attend. Veuillez me suivre, monsieur.
et y suit la secrétaire. Elle le mène à une porte doublée avec interphone caméra. Elle appuie sur un bouton. Le voyant vert s'allume. Elle ouvre la porte. Entrez, monsieur. Il entre. Danfort est debout devant son bureau. Venez vous asseoir, monsieur Durand. Il va s'asseoir dans un fauteuil qui est devant le bureau.
Alors, quoi de neuf, monsieur Durand ?
Monsieur Durand sort le coffre frais de sa poche et le dépose sur le bureau.
Merci, vous avez réussi. Est-ce que cela a été dur ?
Non, pas tellement. La plupart des personnes ne savaient pas vraiment ce que c'était. Il y a bien eu des illuminés, des fous de Dieu. L'enfant lui dit : Nous avons bien réussi notre coup. Récupérer le coffret et en plus supprimer toutes les personnes qu'il voulait. Des espions, les fous de Dieu. De toute façon, il n'aurait rien pu en faire. Il ne suffit pas d'avoir la clé du pouvoir. Il faut aussi savoir s'en servir, se servir de la chose. Et ça n'est pas permis à tout le monde. Durand lui demande, « Qu'allez-vous faire maintenant ?»« Rendre au laboratoire la chose pour qu'il puisse étudier. » La nouvelle qui dit que la France détient l'ADN de Dieu fait le tour du monde. Cela amuse des autres qui n'aiment pas la France. À l'ONU, les Américains disent « Il faut que la France rende Dieu. Dieu est universel. Il n'appartient pas à la France. » Nous décidons, c'est de donner un ultimatum à la France pour qu'elle nous rende Dieu. Une nouvelle croisade des temps modernes est déclarée contre la France. Le président de la République française dit « C'est faux, c'est une histoire montée contre la France. » Danfort écrit au pape pour qu'il fasse quelque chose. « Vous avez dit que vous nous aiderez. » Le pape dit au monde
« Diabolos fem. » Qui dit que Dieu, c'est de l'ADN. Dieu est esprit. Toute personne qui fait véhiculer que Dieu est un ADN est excommuniée.
Les Juifs qui ont peur que la France devienne le peuple élu et qu'elle détienne Dieu, disent « Jésus est juif, donc son ADN doit nous être rendu. Il ne doit pas appartenir à des impies qui vont le laïtiser. »
Le pape leur dit « Si l'ADN est le Christ,
il ne doit pas vous être rendu. Vous l'avez rogné et tué. Si vous ne vous taisez pas, je dévoile la vraie histoire de votre peuple élu, des vraies origines de la Bible et de Moïse. Les Juifs se taisent.
À Paris, Monseigneur Yoga dit dans une conférence de presse devant Notre-Dame « Moi, le pape des pauvres, des parias, des sans-papiers, etc. Je dis qu'il faut que l'ADN me revienne, car Dieu est un pauvre parmi les pauvres. Il doit rester avec les pauvres. Il est la propriété des pauvres. » Le pape lui répond
« Taisez-vous, restez tranquille, autrement je dévoile que vous recevez de l'argent de certains partis politiques pour créer des troubles en France. »
Silence complet. D'Anfort remercie le pape pour son aide et lui envoie un chèque de 5 milliards. Gallien, qui a été mis à l'écart de cette histoire, lorsqu'il a lu les journaux, il a convoqué D'Anfort à son bureau. Allô? Pouvez-vous dire à M. D'Anfort de venir à mon bureau le plus rapidement possible? Merci.
Entrez.
Entre D'Anfort.
Venez vous asseoir.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ADN de Dieu? D'Anfort lui dit.
C'est une lutte contre les États de la France. On veut la paralyser. Et les Américains voient que nous les dépassons en matière de recherche biotechnique. Cela les ennuie. Ils font une campagne contre nous.
Galien lui dit, et cette histoire d'ADN de Jésus?
L'enfant lui dit, nous vous l'avions dit. Nous avons fait des recherches sur le Saint-Suaire. Nous avons trouvé de l'ADN. Mais ça peut être de l'ADN de n'importe qui. Du fabricant du tissu, du teinturier, etc. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'intérieur de nos services, des gens nous espionnent et dévoilent à la presse n'importe quoi. Excusez-moi.
Gallien lui demande, que devons-nous faire? La France risque d'être en guerre et encerclée comme l'Irak.
L'enfant lui dit, il faut rien faire. De toute façon, le pape est avec nous. C'est l'un des nôtres.
Gallien lui dit,
il vaudrait peut-être mieux c'est de donner cet ADN. J'y ai pensé. Un ADN ressemble à un autre. On peut leur donner n'importe lequel, ils n'y verront rien.
Alors pourquoi ne pas le faire?
L'enfant lui dit, parce que si nous leur donnons trop facilement, ils vont trouver ça louche. Si nous leur donnons d'une façon, parce que nous sommes obligés, par pression, ils nous croiront mieux. Mais pour le moment, restons neutres.
Et qu'en pense le président?
Lui, il laisse faire. Cela l'amuse d'être seul contre tous.
Gallien lui dit, je me demande à qui ira l'ADN si il nous est pris.
Sûrement aux Américains.
Ils sont tellement jaloux de ne pas avoir d'histoire, de sol saint, etc. Là, ils seront récompensés en ayant Dieu.
Bien, alors faisons la sourde oreille, l'enfant lui dit.
Et je vais faire surveiller nos entreprises.
Galia se sent encore faible. On lui a dit que c'était un manque de calcium. Tous les matins, un médecin vient le voir. Il prend sa tension, ses réflexes. Il est surveillé étroitement sans qu'il s'en rende compte. À la moindre perte de sang, un plan est en alerte. Récupérer le sang, ambulance, coupure, hémorragie. Le sang qu'il a perdu est purifié et est réinjecté dans ses veines. C'est le sang le plus précieux du monde. Et il ne s'en rend pas compte, il ne le sait pas. Rien n'a changé dans son comportement, ni dans ses pensées. En Amérique, au FBI, un groupe de travail se penche sur l'opération ADN Dieu. Ils ont les plans pour entrer dans le laboratoire où se trouve le fameux ADN. Mais comment savoir lequel est-ce? Tous les ADN sont en bouteille avec un numéro, et ce numéro, seuls Riquin et Danfort le connaissent. Les employés de laboratoire font des recherches sans savoir de quel ADN c'est. Et toutes les semaines, les bouteilles changent de numéro et de place. Un Américain du FBI dit
« Il faut faire parler Riquin ou Danfort », le chef du FBI dit. « Cela fera un scandale diplomatique avec la France. Et puis Riquin et Danfort peuvent dire n'importe quoi. Comment savoir s'ils nous donnent le vrai ADN ?» Ils se ressemblent tous. Alors que faire? Attendons. Nous avons en place des gens, à nous. Peut-être qu'un jour, ils nous apprendront une information importante.
Le temps passe. À une soirée par la mère Guillaume. Elle fait sa soirée chez une de ses amies qui lui a prêté son hôtel particulier à Neuilly, un hôtel du 18e au fond d'un petit parc. Toute la maison est illuminée. Il y a foule, 600 personnes, que des intimes d'intimes. Orchestre, buffet avec tout ce qu'il y a de mieux. On a fait venir les petits fours, les glaces et la charcuterie directement de Lyon par avion spécial. Les petits fours et les glaces sont de Bernard Chon. Des valets habillés à la française servent. Ils sont en rouge. Les invités, les hommes en smoking, les femmes en robe du soir chatoyante. Le luxe et le bon goût existent encore malgré la crise et les tueries. Les chômeurs, SDS et faiseurs d'attentats de toutes sortes ont le bon goût de ne pas déranger la beauté et le luxe. On se bat, on a faim entre pauvres et on fait la fête entre riches. chacun ses soins, c'est beaucoup mieux. Une femme, grande, maigre, à tête de cheval, robe longue, verte, cheveux roux, bijoux un peu partout et bien gros, dit à l'assemblée.
Madeleine, du Christ nous appartient. Monseigneur Yoga a tort de vouloir le donner aux pauvres. Qu'est-ce qu'il en ferait? Et puis, chez nous, au moins, il aura à manger et nous pourrons lui bâtir une église. Ces prêtres gauchistes n'ont aucun sens pratique. Ils veulent donner une cabane à Dieu et lui faire manger du couscous. Faire de Dieu un SDF. Lui, qui a tout, lui, à qui tout lui appartient, tout lui enlever. Quelle honte! Heureusement que le pape est là pour mettre de l'ordre.
Galien s'éloigne du groupe, la sœur tendue de bêtises. Madame de Fleury va vers lui. Elle a en robe bleu foncé, très simple mais belle. Elle lui dit
« Venez, je vais vous présenter une de mes amies. »
Elle le mène vers une femme en robe blanche, grande, mince, blonde, cheveux mi-longs, le visage très fin. Elle paraît avoir dans les 25 ans. Madame de Fleury dit
« Monsieur Diap, je vous présente Madame Diap Meuleux. C'est la personne chez qui vous vous trouvez. »
Galien est ébloui par la beauté de cette jeune femme et lui dit
« Je suis honoré que vous m'ayez invité et je vous en remercie. »
Elle lui dit
« Plus pour rien, c'est Madame de Fleury qui a fait les invitations. »
Madame de Fleury lui dit
« Puisque je suis la maîtresse de maison chez toi, je vais aller voir un peu plus loin. Je vous laisse tous les deux. »
Diane lui dit
« Allez mon ami. »
Et Madame de Fleury les laisse. Diane lui dit
« C'est vrai, je crois que vous êtes président du groupe Jeune Tout. »
Oui, madame. Elle lui dit
« Vous êtes si jeune, ça me paraît incroyable. Comment avez-vous fait ?»
Il lui répond
« On m'a choisi. Vous devez avoir de grandes qualités. »
Il lui dit
« Je ne sais pas. Vous savez, je suis que président. Moi, c'est surtout les collaborateurs qui s'occupent de tout. »
Castillé,
il lui dit, attention à ne pas signer n'importe quoi.
Il sourit. De toute façon, ça n'a aucune importance. Je rentrerai chez moi. Voilà tout. La fortune ne m'intéresse pas. Elle lui dit,
j'ai de la chance. Je la vous rends libre. Moi, avec mes choses que j'ai entassées et que j'ai reçues de ma famille, je me suis pris dans un engrenage qui me coupe toute ma liberté. J'ai peur de perdre tout ça. Je me sens responsable de tout ça, de ce que j'ai. Je ne peux rien perdre. Tant l'argent ne m'intéresse pas, non. Ce que je possède, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ce que je possède.
Et un jour, vous vous apercevrez qu'un beau tableau chez vous dans une allée, il est beau de la même façon. Et ce qui compte, c'est le plaisir qu'on en a à le voir, et non à le posséder.
Elle lui dit, oui, mais en le possédant, on peut le voir quand on veut.
Il la trouve très belle. Il lui demande, vous voulez danser?
Oui, pourquoi pas.
Et l'amène danser.
Tout près d'elle, son parfum, la douceur de sa peau. Il lui dit, vous êtes très belle.
Merci. Vous aussi, vous êtes très bien. Vous ressemblez? Je ne sais plus à qui. Ah oui, à ce jeune qui a joué dans le film Titanic.
Merci. Vous allez trouver bien?
Oui, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Et puis, il joue merveilleusement bien. Il y va à fond avec ses personnages. Et puis, il a un visage d'une douceur.
Pourquoi je vais être jaloux?
Elle me sourit une fois. N'allez pas être jaloux. Vous êtes mieux que lui, hein?
Pourquoi?
Vous êtes encore plus pur de visage et avez l'air moins torturé.
C'est vous que je préfère.
Merci.
Une fois qu'ils ont fini de danser, ils sont allés au buffet prendre quelques amuse-gueules.
Galien lui dit, j'ai dû coûter une fortune tout ça.
Elle lui dit,
vous, l'homme le plus riche du monde, vous inquiétez de savoir combien coûtent quelques amuse-gueules?
Oui,
parce que je connais la valeur des choses et leur rareté à notre époque. Et puis, je ne suis pas ici issu d'une famille de milliardaires. Et quant à mes milliards, je ne sais pas, parce que je dépense que très peu. Enfin, très peu pour un milliardaire. J'ai tout ce qu'il me faut, et j'ai besoin de rien de plus. Et puis, vous savez, je suis un homme comme un autre. Tenez, j'étais malade il y a peu de temps, une grande faiblesse. Il en ressent encore des séquelles. Elle lui dit, « Je ne savais pas que vous aviez été malade. Vous voulez peut-être vous asseoir, vous allonger ?»« Non, merci. Pour le moment, ça peut aller. » Et la soirée se continue à parler de choses et d'autres. Ils restent tout le temps ensemble.
Lorsque le temps de partir est arrivé, elle lui dit « Si vous le voulez, vous pouvez rester ici et nous terminerons la nuit ensemble. » Il lui répond « Je vous remercie, je serai très heureux. » Elle lui dit « Ça aurait été idiot de ne pas finir la soirée ensemble puisque nous nous plaisons. » « Nous nous plaisons, n'est-ce pas ?» Et le sourire lui dit « Oui, bien sûr, vous êtes vraiment une femme formidable. » Elle lui dit « Je ne suis qu'une femme, voilà tout. » Madame de Flory s'approche d'eux et dit à Diane « Je vous quitte. Merci pour tout, ma chérie. Je vous revaudrai ça. Mais non, vous n'avez aucune dette envers moi. Je suis largement récompensée. » Elle montre Galien. Madame de Flory sourit et dit « C'est un gentil garçon. Mais je croyais que vous aimiez mon fils. Enfin. » Galien lui dit « Mais je l'aime toujours. Il est dans mon corps. » Il embrasse sur la joue. Madame de Flory s'éloigne. Diane dit, j'aurais pas dû vous parler. Je ne savais pas que vous et son fils. Galien lui dit, elle a compris. Elle sait que j'aimerai toujours son fils. Vous, ce n'est pas la même chose. Il l'embrasse sur la joue.
Que les invités sont partis, dans le salon vide, en désordre, plein de coupes de champagne de partout, d'assiettes sales, de cendriers pleins, les serveurs qui commencent à nettoyer. Diane lui dit « Montons, allons au premier. » Elle le mène à sa chambre. La pièce est grande, meublée Louis XV, meuble bois de rose. Elle reste là,
au milieu de la pièce. Il s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Elle lui dit
« Ne pense pas que je fais ça avec des tas d'amants. C'est la première fois que je fais le premier pas. Tu vois bien comme je tremble. »
Il lui dit
« Oui, comme un petit oiseau blessé. »
Et il l'embrasse sur les lèvres.
Je ne m'en vais pas vous décrire la suite. Je l'ai raconté des centaines de fois. C'est toujours la même chose. C'est un peu lassant de décrire toujours les mêmes choses. Mais comme dit Sorian, la sexualité, c'est tout de même quelque chose de... depuis qu'elle existe, on ne s'en lance pas. Sauf l'auteur. Et c'est pour cela qu'il ne vous en dira rien cette fois-ci.
Galien s'est réveillé en fin de matinée, nu contre Diane, nu elle aussi. Elle est blottie contre lui. Les rayons du soleil baignent la pièce. Galien est heureux et fier. Fier, parce qu'un homme, même homosexuel, s'il a fait l'amour avec une femme, en est fier. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti capable de faire ce que font les autres hommes, c'est-à-dire donner du plaisir à une femme. Et lui est fier aussi parce qu'elle est belle et intelligente. Mais l'aime-t-il? Peut-être oui, mais n'est pas capable de vivre avec elle.
Il regarde ce joli corps blotti contre lui, mais n'ose plus le toucher. Il se demande comment elle va réagir. Ne va-t-elle pas, peut-être, être bien envahissante? Il l'aime, mais tient à garder sa liberté. Il sent avec appréhension qu'elle se réveille. Oui, elle se réveille. Son corps qui bouge, sa tête qui se soulève et lui dit
« Bonjour, bien dormi ?»
Oui.
Elle lui donne un baiser et se lève en lui disant
« Je sais que des fois les hommes sont d'humeur morose après l'amour. Je vais dans la salle de bain. Comme cela, tu pourras te remettre de tes émotions. »
Et elle le quitte.
Lui s'étire. Il se dit que c'est une femme charmante et compréhensible. Elle n'est pas du tout du genre crampon.
À manger.
Elle lui dit « Tu sais, je t'aime vraiment. Je te trouve gentil, beau et pas comme les autres. Je sais, c'est que je suis une fille... Enfin, à voir comme ça, qui a l'air pas très sérieuse. Et pour toi, je suis vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. En te voyant, j'ai tout de suite eu le coup de foudre. »
Il lui dit, « Moi aussi je t'aime. Et je suis heureux. Et je veux que je t'aime, que tu m'aimes. »
Elle lui dit, « Alors, voyons-nous souvent ?»
Et c'est ce qu'ils font, ils se voient très souvent.
Galien est très heureux. Il continue à voir la mère de Guillaume une fois par semaine chez elle ou dans un salon de thé.